voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, que raconte le street art sur nos villes? Préparez vos bombes, vos pinceaux, parce que les murs des villes sont sans limite, enfin, presque partout. Que racontent ces dessins de rue, spontanés, révoltés, au contraire très encadrés, valorisés par les communes? Quels sont les pays les plus ouverts à ces tags qui deviennent de l'art urbain et parfois cotés très cher sur le marché de l'art? On va en parler avec des professionnels. Nicolas Logéro-Lasserre, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous avez créé Art 42, Urban Art Museum, premier musée de street art dans les locaux de l'école 42, qui est une école consacrée au numérique. C'est le genre de musée où il faut de la place, hein, quand même. 4000 mètres carrés, 150 œuvres, pas vraiment facile à déménager.
Non, effectivement. Mais figurez-vous que ça a été vite plein parce qu'on a aussi invité beaucoup d'artistes in situ, c'est-à-dire qui sont venus peindre sur les murs. Et donc, j'ai décidé de créer un deuxième lieu. Et aujourd'hui, donc, on transforme aussi l'école que j'irige, qui s'appelle l'ICAR, une école d'ingénierie culturelle. On la transforme à nouveau en musée. Et donc, il y a d'autres murs à peindre.
C'est ça,
d'autres projets
murs,
à réaliser.
Pour,
il faut, je crois, mettre de l'art partout.
Exactement.
C'est peut-être ça notre combat.
Y compris dans les stations de métro et les gares. Jonas Ramu, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes président de Quai36, une société de production d'art urbain. Tout a commencé pour vous à la gare du Nord, qui n'est pas franchement une gare très accueillante et conviviale, on en discutera. Et vous nous en parlerez bien sûr. Également avec nous, un street artiste, Toc Toc, bonjour.
Bonjour.
Toc Toc, c'est votre blaze de graffeur. Hein.
C'est ça, exactement.
C'est pas que j'ai frappé à votre porte. Vous aimez bien rester anonyme, ça se fait comme ça dans le monde des graffeurs, non?
Oui, je sais pas, une question de mode peut-être.
Vous aimez, alors vous exposez en ce moment à Paris dans le 11e arrondissement au Panam Art Café. Et puis on ira aussi, les voisins et les voisines, à Medellin en Colombie. Notre correspondante Najed Benrabah nous expliquera comment le street art est arrivé en intégrant la politique publique de la ville et a participé à pacifier les favelas les plus violentes. Et quant à vous, les voisins, où que vous soyez dans le monde, appelez-nous si vous participez à des initiatives de création libre dans votre quartier, ou bien dites-nous ce que cette expression artistique apporte dans votre quotidien, tout simplement en tant que spectateur et citoyen. Je vous redonne notre numéro de téléphone qui est aussi notre téléphone WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Je vous lis le message posté par un voisin qui est au Tchad. Il nous dit que l'art de la rue est très important parce qu'il éduque. Ici au Tchad, on en voit sur les murs des écoles, des lieux publics, des dessins qui accompagnent des messages comme non à la violence en milieu scolaire ou non aux violences faites aux femmes. On trouve aussi des messages comme l'alcool nuit à la santé, protégez-vous du VIH. Ou le dessin d'une famille qui dort sous une moustiquaire pour se protéger du paludisme. Et c'est vrai que ce sont souvent des commandes par les organisations internationales, les ONG, pour mieux faire passer les messages. Et il nous dit qu'il prend le temps de lire et de regarder ses dessins. Ça fait du bien, l'art dans la rue. Allez, appelez-nous maintenant. Même s'il n'y a rien chez nous, chez vous, vous nous posez des questions à nos invités. 33 1 84 22 71 71.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
Et tout de suite, reportage de Raphaël Constant dans les rues d'Athènes, deuxième capitale en Europe du street art après Berlin. Depuis plus de 20 ans, les murs d'Athènes racontent toutes sortes d'histoires. On peut même dire que les street artistes ont métamorphosé cette ville. Une ville au départ, il faut bien dire, assez laide, hein, en dehors de l'antique Parthénon et Acropole. La crise économique qui secoue la Grèce depuis 2008 a renforcé le phénomène. Sur les murs, les messages politiques dénoncent les mesures d'austérité imposées au peuple grec, défendent les droits des immigrés. Athènes se différencie des autres capitales européennes aussi parce qu'il y a une certaine tolérance de la part des autorités vis-à-vis de l'art de la rue depuis pas mal d'années. Pas de législation stricte. Les artistes se sont emparés de la plupart des murs, des portes, des poteaux, des poubelles, pour raconter le désarroi, la révolte et les espoirs du peuple grec. Vous allez entendre Auré, 43 ans, il est français, il peint en Grèce depuis les années 80. Et puis direction Exarchia, le quartier historiquement contestataire d'Athènes, à la rencontre de Kakao Rox, un street artiste grec très connu qui peint dans les rues et qui s'expose en galerie.
J'ai des liens assez forts et de longue date avec la Grèce. Et donc en 2015, j'avais invité deux peintres d'Athènes, WD et Skerwan, pour réaliser des fresques sur le site et une exposition pour parler de la crise grecque. Quand tu te balades près de l'Agora d'Athènes, tu as la voie de métro qui passe le long du site archéologique, avec les métros peints par les graffeurs de notre époque. Donc tu vois au premier plan les wagons de métro qui passent. Derrière, tu as l'agora et en fond, tu as la colline de l'Acropole avec le monument majeur de la culture occidentale, le Parthénon, la base de nos démocraties, de notre art. Cette image-là très forte d'Athènes, cette inscription du graffiti dans la ville avec l'histoire antique en toile de fond, pour moi en tant que graffeur, c'est une image absolument magnifique. J'ai vu la Grèce sans graffiti, j'ai pu observer l'explosion du mouvement graffiti street art durant la période 2007-2010. Tu vas avoir les taggers de métro, c'est la branche la plus hardcore du milieu. T'as le tagger de rue hein, qui peint des murs à base de lettrage. T'as le pochoiriste qui est dans l'expression politique. T'as le pochoiriste dans le truc drôle, poétique. T'as le colleur d'affiche issu des beaux-arts. Tu as le muraliste qui peint à la broche, au rouleau, à l'acrylique et qui te fait des représentations monumentales sur n'importe quelle thématique. Tu as tout, c'est une grande soupe urbaine où tu as une diversité énorme.
Toi, en tant qu'artiste, quel regard tu poses sur Athènes vis-à-vis de son histoire inscrite sur les murs?
Il y a eu une expansion vraiment phénoménale à partir des années 2008-2010. Hein, vraiment, je pense que Athènes est une des villes d'Europe qui a été le plus peint ces dernières années. Et il y a aussi tout un pan d'expression politique. À l'heure actuelle, je pense que c'est à Athènes qu'on voit la présence la plus forte de graffiti politique.
Les gens qui habitent Athènes aime le graff. C'est une caractéristique de la ville, c'est la vivacité de la ville. C'est des gens qui étaient en désespoir, qui sont sortis s'exprimer dans les rues et sur les murs. Le graffiti révèle le désespoir et l'espoir en même temps.
Ça donne l'impression que toute une jeunesse a pris les marqueurs, pris les bons pour s'exprimer, pour se réapproprier une parole qu'on lui a volée. C'est une jeunesse qui n'a pas sa place sur le marché du travail, notamment. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette situation-là? Il y a une espèce de rage spontanée très forte qui s'exprime par les murs. Et ce qui est assez intéressant à Athènes, c'est qu'il y a une présence du mouvement anarchiste aussi très forte. Il y a des mélanges à Athènes qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein. Je pense notamment au NDA Crew, hein, avec des gens comme Sidrun, qui peigne beaucoup de représentations de personnages portant le masque à gaz, hein, des espèces de mutants mi-hommes, mi-machines. C'est pas une image très optimiste de l'humanité, mais c'est à l'image de ce qui se passe en Grèce à l'heure actuelle. Une phrase très simple que j'avais lue un jour aussi qui m'a beaucoup marqué, Urban Vietnam. Vietnam urbain. C'est vrai que les rues d'Athènes, pour moi, c'est triste à dire, mais sont une espèce de terrain de guerre, parce qu'il y a une violence sociale extrêmement forte. Quand vous voyez des junkies, des sans-papiers, des vieillards, qui sont comme des fantômes dans les rues d'Athènes, c'est extrêmement violent, c'est encore plus violent quand vous avez connu ce pays-là avant. Le street art et le graffiti athénien, à l'image, c'est le constat de la faillite d'un système européen et de la faillite d'une société grecque qui a cru au mirage, au miroir du capitalisme moderne. Et quand le miroir s'est brisé, voilà, les banquiers sont arrivés et ont mis la note sur la table et tout le monde en paye le prix. Si tu veux, en Grèce, cette crise, Elle a imprégné chaque personne au plus profond de son cœur et aussi collectivement.
Voilà, retrouvez l'intégralité du reportage Enquête de Raphaël Constant dans l'émission sur RFI Si loin, si proche et le super reportage photo qui va avec. Athènes sous les bombes, ça s'appelle Quand l'art et la contestation se lisent sur les murs. Et bien sûr, les voisins, vous nous appelez, vous réagissez. On parle donc du street art. Si il y a de belles photos, de belles images à nous envoyer, vous nous postez ça sur notre Instagram, sur notre Facebook ou sur Twitter ou encore sur WhatsApp 33 1 84 22 71, Nicolas Logéro-Lasserre et Jonas Ramu et Toc Toc. Vous connaissez Athènes, vous y êtes allé pour le street art ou pas, non?
Non, oui, jamais. Non, jamais. Et puis, ce qu'il y avait de très marquant, bravo pour ce beau reportage, c'est le côté très politique qu'on vit moins, hein, nous, en France, aujourd'hui, même s'il y a parfois des manifestations, etc. On a vu des messages, là, il y a quelques mois, se répandre. Mais quand même, on est loin de leur situation et on voit à quel point dans ce chaos, la personne l'expliquait très bien, je ne peux pas le répéter, on voit bien que ce médium, cet outil qu'est le graffiti, bah, permet de se réapproprier, de dire des choses, de partager quelque chose de collectif, de mener un combat.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, à part des villes qui souffrent comme Athènes, le street art, ce n'est plus vraiment un mode d'expression qui prend racine dans la souffrance et le malheur des habitants des villes.
Je veux dire, comme le disait justement Nicolas, c'est un médium et donc à chacun aussi de se l'approprier. Donc il y a différents types de supports ou surfaces sur lesquelles on peut intervenir. Et encore aujourd'hui, il y a des formes de revendications qui peuvent en tout cas prendre naissance et donner vie à une forme de revendication par l'art. Effectivement, après, quand le métier se professionnalise et quand on est dans l'ordre de la commande, c'est encore un autre champ de travail et d'application. Et effectivement, la forme de revendication est moindre et maîtrisée.
Ouais. Mais le street art continue beaucoup de parler du règne de l'argent, des inégalités sociales, de la pauvreté, de l'exclusion. C'est quand même les grands thèmes, non?
Oui, bien sûr, à l'image d'un Banksy, hein, qui est peut-être un des plus connus pour tous les gens qui nous écoutent, l'anglais Banksy ou l'américain Shepard Fairey, on voit bien qu'effectivement, il y a un propos contre l'impérialisme. Je pense à Shepard Fairey, c'est vraiment contre l'impérialisme américain. Il y a un propos pour la paix, contre la prolifération des guerres, des armes. Enfin, voilà, c'est un mouvement militant. Moi, j'aime bien parler d'un ADN. Et donc, on n'a pas de manifeste dans ce mouvement. Peut-être Toc Toc, notre artiste ici, nous dira un mot par rapport à ça. Mais il y a tous les grands mouvements d'histoire de l'humanité, d'histoire de l'art, ont été portés par des manifestes. Nous, il n'y a pas un manifeste, mais il y a un ADN. L'ADN, c'est quoi? La gratuité, par essence, hein, la rue, c'est aussi le côté militant, vous le disiez. Voilà, c'est ça l'ADN, je pourrais en ajouter. C'est aussi que ce mouvement, il est mondialisé. C'est le premier mouvement de l'histoire de l'art qui est mondial.
Et qui est parti de la base.
Absolument.
Historiquement, ce n'est pas des commandes royales, des commandes de l'Église, comme on a observé pendant des siècles l'histoire de l'art.
Il n'est pas, c'est vrai, parti des élites, comme souvent ça a été le cas, ou de la bourgeoisie. Il est plutôt parti de la base, du peuple. Et il remonte aujourd'hui. Vers les élites d'ailleurs.
Ça, pour remonter, ça remonte en flèche, hein, y compris par la cote sur les marchés.
Oui, et l'institutionnalisation aussi, ouais, les musées.
Toc Toc, vous y tenez à ce côté libre d'accès, gratuité, quand vous faites vos collages de vos fameux bons hommes, vos dudus dans les rues?
Ouais, moi en fait, à la base, c'est ça qui m'a donné envie de faire du graffiti street art. Déjà, je suis arrivé à Paris en 2009, où j'ai découvert toute cette scène que je connaissais pas trop, venant de la campagne, graffiti street art.
Vous êtes arrivé à Paris à 17 ans.
C'est ça, pour des études artistiques.
Et ce qui vous a frappé, c'est pas la Tour Eiffel, c'est le street art.
Ah oui.
Vous avez accroché tout de suite.
Bah, et puis je fais des études artistiques, donc forcément l'art me plaît. Je connaissais pas cette culture, je connaissais beaucoup de choses sur l'histoire de l'art, mais pas trop de ce graffiti qu'on en parlait pas trop dans les bouquins, mine de rien, à cette époque-là. Et vraiment, ça m'a marqué. C'est du coup, bah, 3 ans après que j'ai voulu en faire, tellement c'était. Puis c'est vraiment à l'époque où ça commençait vraiment à monter à Paris, vraiment, il y en avait vraiment de plus en plus.
Alors justement, quelle est la différence entre graffiti et street art?
Alors, je vais vulgariser à fond et mes collègues vont me compléter. Mais on est obligé de vulgariser parce que le mouvement est vraiment très complexe. Mais en gros, le graffiti, c'est de la lettre, c'est du lettrage. Donc la pratique démarre souvent par un tag. Un tag, c'est quelques lettres qui représentent son blaze, son surnom. Hein, mon surnom, comme cet acte est quand même répréhensible, je ne peux pas utiliser mon vrai nom. Donc, je pose mon surnom sur les murs. Ça, c'est tagué. Et dans l'évolution de cette pratique de la lettre, ensuite, on va poser ce qu'on peut appeler une pièce, c'est-à-dire un throw-up, c'est-à-dire on va poser son blase, mais de façon plus travaillée, en relief, en couleur. Ça, c'est ce qu'on voit plus sur les autoroutes, les voies ferrées. Donc, un tag, c'est 10 secondes. Poser une pièce, ça va être entre 20 minutes et 2 heures. Vous voyez, donc voilà, il y a différents. Alors, ça, c'est le graffiti, c'est la lettre. Donc, démarche vandale. Hein. Vandale, ce n'est pas un gros mot. Les graffeurs eux-mêmes intègrent ce vocabulaire. Et à côté de ça, il y a des artistes qui se sont formés académiquement ou pas, mais beaucoup
en tout cas,
sont
qui savent
diplômés.
Dessiner.
Voilà. Invader, le fameux Space Invader, a fait les Beaux-Arts de Paris, Speedy Graffito.
Oui, ouais, ils ont quand même un sacré coup de pinceau. Voilà, hein, c'est...
Mais disons que pour les distinguer, pour caricaturer un peu, de l'autre côté, il y a des gens qui ont fait des écoles d'art et qui, à un moment donné, décident d'œuvrer dans la rue, quoi, et de les poser dans la rue. Mais tout ça,
Et là, on lâche la bombe, hein, d'ailleurs, bien souvent. On passe plutôt au pinceau avec des choses plus fines,
on
plus
peut
précises.
On peut conserver le spray. Après, je crois que là, c'est vraiment une question de sémantique et c'est surtout qu'il y a eu un mouvement où il y a eu une revendication très forte. On est né dans la rue et disons que comme on vient de la rue...
On a un cri à pousser et les points communs, c'est la rue, la gratuité.
C'est la rue, la gratuité, mais aussi dans le cadre de la reconnaissance de la pratique urbaine. C'est une jeune génération de mecs qui ont des choses à dire, qui ont les moyens de s'acheter les matériaux qui leur permettent de s'exprimer. Et dans ce cadre, c'est pas noble. Et comme c'est pas noble, vous avez en tout cas des lettres de noblesse à gagner. Mais l'idée générale, c'est qu'on est on a de l'art dans l'espace public et le street art, c'est de l'art urbain. Les statues aux Tuileries pourraient être du street art si on l'entendait de cette façon-là. Et donc, effectivement,
vu comme ça, le street art, c'est une pratique qui est plus solitaire que les graffitis. On arrivait en bande la nuit aussi beaucoup pour se marrer.
Oui et non, ça dépend au sens où si vous êtes dans le cadre d'un festival, vous allez avoir une multitude d'artistes autour de vous. Si vous allez à Wynwood, à Miami, vous n'êtes pas nécessairement seul, vous pouvez travailler en duo.
Vous, Toc Toc, vous travaillez tout seul?
Alors en fait, ça dépend des périodes. Je peins tout seul, effectivement. Après, ça va dépendre des périodes. Des fois, je vais vouloir sortir avec des potes pour aller coller ou peindre. Parce que j'ai envie d'être seul, parce que c'est un message personnel que j'ai envie de faire passer sur un mur.
Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous êtes avec des potes, comme vous dites?
C'est
quand vous
pas
allez
du tout la même ambiance.
Dessins.
Pardon, c'est pas du tout la même ambiance, je suis pas dans la même optique de travail.
Mais il y a une émulation artistique dans ces cas-là?
Oui, bien sûr, toujours.
Je trouve que c'est pour le coup, je pense que c'est vraiment collectif. Dans les graffeurs, c'est intrinsèque au mouvement, puisqu'on parle de crew, hein, on parle d'équipe de graffeurs qui sortent en bande. Ça démarre souvent très tôt d'ailleurs, hein, 13, 14, 15 ans pour le graffiti. Pour le street art, peut-être un peu plus tard en général. Mais c'est quand même, il y a vraiment cette idée de festival, de collectif.
Alors, rarement une pratique. Les graffitis, vous le disiez, ils ce sont des vandales assumés. Hein. On appelle ça le vandalisme qui est répréhensible sur la voie publique. Les autorités des communes dépensent d'ailleurs pas mal d'argent à effacer les graffitis quand ils souillent de beaux bâtiments. C'est plus du tout le cas du street art aujourd'hui. Non, même si c'est pas illégal.
Non, mais au sens où le graffiti, bon, je vais prendre l'exemple très concret de Paris Gare du Nord où on est intervenu en 2015 en donnant lieu à une résidence de 22 artistes sur 55 jours de production. Il y a énormément d'œuvres qui sont encore visibles aujourd'hui. Un artiste comme Basque, qui est un artiste allemand, Basque to be true, est un maître en tout cas de la calligraphie et du graffiti, peint en festival, est né dans la rue et en même temps a su démontrer de son art et du sublime dans la gare, dans l'espace public de manière
tout à fait légale,
légale et autorisée, rémunérée.
Le rêve du street artiste n'est pas forcément d'aller apposer son œuvre dans des endroits interdits où on abîmerait une autre œuvre. Je ne sais pas, Toc Toc, c'est peut-être votre rêve d'aller coller sur la pyramide du Louvre, non? Peut-être
ça,
que vous l'avez tenté,
JR l'a déjà fait avant moi. Mais vraiment, ça dépend des projets, de ce qu'on veut dire, surtout. Enfin, moi, personnellement, le lieu va dépendre du message que je veux faire passer. Donc, ça va être un peu plus réfléchi, peut-être. Et donc voilà, ça dépend, le projet, ça dépend vraiment. Ouais.
Je crois que parler de rêve, il y a autant d'individus qui composent la scène artistique, qui composent le monde, et à chacun finalement ses rêves et la façon de les exprimer, et là dans ce cadre artistiquement.
Vous nous appelez les voisins et les voisines si vous vous sentez concerné par le sujet, s'il y a de la création sur les murs de vos villes, si vous admirez, si vous rejetez, 33 1 84 22 71 71.
Le style, c'est les lettres, le goût, c'est les couleurs, le support, c'est le taux de risque, les risques, c'est nos valeurs. Ça, c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer, on peut pas nous voir en peinture. graffiti culture. Graffiti culture. C'est descendre sur la ville, c'est monter sur les doigts. Ça c'est pour toute la vie, en marche des lois et de l'état. Ça passionne et ça rend fou, c'est underground, non en dessous. Ouais le goût c'est les couleurs, et y'a du style dans la coulure. On arrive les poches vides, et on repart la barque à pleine. Sponsor par la ville, tout est gratté, tout est gratuit. Tout homme tout top dans un entrepôt entre potes. Faut bien faire le stock pour les tags et les blocs. Pas de canne que de la tempête, ça cartonne un camtar ça flop. Des stars on a que la poussière, qu'on décolle des stores. Chemin et rideau de fer, on est dans une autre sphère. Des tags à tous les étages, avec ou sans échafaudage. Une pince dans un étui de guitare, on ouvre des portes, clés des postes, type le décor, descend du toit. Pour se réfugier dans une gare, j'peux pas nous t'es réduite. Au silence que les murs m'écoutent, les enceintes font courir le cri. J'ai le rap pour les aveugles et pour les sourds, le graffiti. On aime les surfaces lisses comme des b-boys. Ceux qui signent d'une croix sont des petits toys. C'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer. On peut pas nous voir en peinture, graffiti culture.
On les appelle les taggers. La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ils affectionnent les wagons du métro. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Brut peut-être, mais cher pour la RATP.
Le graffiti a pris 10 ans de ma vie. Moi, j'ai fait ça de manière méticuleuse, sérieuse, comme un travail. Et maintenant, je réalise que j'ai fait tout ça pour pas grand-chose, uniquement pour le kiff. Et s'il fallait le refaire, je le referais direct.
Voilà, juste avant, on entendait ces scènes, Graffiti Culture, si vous avez envie de partager cette chanson. On est en compagnie de Nicolas Logéro-Lasserre, Jonas Ramu, vous êtes spécialiste de cet art urbain qui est le street art. Toc Toc, vous êtes street artiste. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine qui nous appelle de Berlin. Bonjour Christelle.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins et les voisines.
Vous êtes, êtes guide à Berlin, vous nous appelez en direct. Vous êtes concerné par le sujet, vous avez des demandes de visite guidée parce que vous êtes presque dans la capitale européenne du street art, on peut dire ça Christelle, pour Berlin?
Alors oui, je n'ai pas visité toutes les autres capitales européennes, donc je ne sais pas, mais en tout cas c'est très très présent à Berlin. Et oui, je fais des tours en fait dans la ville et un de mes tours qui est très très souvent demandé, c'est celui du street art et de la scène alternative de Berlin.
Oui.
Où en fait les touristes viennent pour, ou même les personnes qui habitent aussi à Berlin viennent pour en savoir plus, pour savoir un petit peu ce qui se cache derrière les peintures ou les collages, ce qui a pu être fait, qui sont les artistes, ce que ça veut dire, etc.
Alors justement, je vous pose la question, il y a une spécificité du street art à Berlin par rapport à Paris, par exemple?
Par rapport à Paris, alors je ne connais pas trop le street art à Paris, donc je pourrais
pas
comparer.
Non, mais vous inquiétez pas, on a les spécialistes là en studio, ils pourront réagir. Dites-nous en tout cas ce qu'il y a derrière ces graphes à Berlin.
Il y a énormément quand même de revendications à messages à caractère politique. Beaucoup de messages aussi pour encourager le vivre ensemble. Donc la tolérance, la paix, l'amour, l'acceptation des personnes telles qu'elles sont. Beaucoup de messages qui emmènent aussi à réfléchir sur le monde actuel, la manière dont on vit, notamment l'hyperconsommation, la course à l'argent, les relations aux autres. Donc il y a notamment une œuvre qui est assez connue, qui est dans le quartier de Kreuzberg, qui a été faite par l'artiste Blue, qui représente en fait un gros bonhomme rose qui représente en gros le système.
Ouais.
Et sauf que ce bonhomme rose, il est fait de plusieurs petits personnages qui nous représentent nous, donc chaque personne.
Ouais.
Et on a l'impression qu'ils sont tous identiques, mais en fait ils ont tous une attitude différente. Donc on en voit qui essaient d'aider les autres. D'autres qui poussent les autres et qui les font tomber dans le vide. D'autres qui regardent ceux qui tombent dans le vide. D'autres qui se marchent dessus, qui s'étranglent. Enfin, voilà un petit peu ce qu'on peut avoir, par exemple.
Oui, c'est toujours, le street art a toujours quand même une espèce de façon de vous interroger un peu brutale, hein, nous les passants.
Exactement, c'est exactement ça. Et je dirais même sans... bon, bien sûr, il y a des pièces pour lesquelles on a besoin d'un peu d'explication. Mais même sans avoir une explication, il y en a qu'on comprend tout de suite en les voyant, en fait.
Ouais. Et ben merci, Christelle, de nous avoir appelé en direct de Berlin. Vous pouvez bien sûr continuer de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je ne savais pas qu'il y avait des tours spécialisées sur le street art à Berlin. Il y a la même chose à Paris ?
Oui, bien sûr, partout. À Paris, il y en a beaucoup aussi. Dans le 13e en particulier, il y a un travail...
Qui est le quartier fétiche, le 13e arrondissement.
Absolument. Et en fait, il l'est pour une raison simple, c'est que on a tous eu des projets de murs dans Paris, mais c'est extrêmement compliqué.
Je montre là d'ailleurs, pour ceux qui regardent l'émission en vidéo, la tour 13, un graphe.
Et dans le 13e, ce qui a facilité ce travail...
Qui remet en cause la présence des écrans.
C'est ça, c'est un maire déjà passionné, qui est Jérôme Coumet, qui est le maire du 13e, donc qui est passionné par ce mouvement. Et puis un galeriste qui s'appelle Mehdi Benchek, qui avait créé cette fameuse tour Paris 13. Et si c'est possible dans le 13e, c'est par le nombre de bailleurs sociaux. Il y a énormément de bailleurs sociaux, donc c'est plus facile de convaincre un bailleur que de convaincre des copros avec des propriétaires individuels de passer en assemblée générale, etc.
Toc toc, tout passe par vos bons hommes, vos dudus en tant que street artiste qui jouent des personnages différents. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, au quotidien ?
Ça va vraiment dépendre, encore une fois, du moment, de comment je me sens. Par exemple, justement, mon petit frère m'a fait remarquer là, il n'y a pas longtemps. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de messages sur le thème de la solidarité, de l'amour, de l'entraide, etc. Peut-être que j'ai fait des voyages qui s'y prêtaient et que je voulais aller dans ce sens-là. Et par exemple, depuis début 2018, mes derniers collages, par exemple, ça va être pour dénoncer... je dénonce la fourrure, je dénonce la liberté d'expression, je dénonce l'environnement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Pareil, j'ai fait quelque chose là-dessus. Et ça va être plus dans le message, un peu plus... je vais vouloir faire passer un message un peu plus fort, on va dire.
Et vos bons hommes sont dessinés avant, dans votre atelier ? Comment ça se passe ?
Je les peins à la bombe sur du papier que je vais coller après.
Et donc, quelle taille en moyenne ?
1m80 à... 3 mètres, oui, ça va dépendre de la fresque.
C'est jamais petit, hein, le street art.
Ouais, ça dépend. Ma dernière scène fait 30 cm d'eau, par exemple.
Et le support ?
C'est du papier classique.
Du papier classique. Ouais, et ça résiste aux pluies, aux intempéries ? Parce que je sais que parfois, vous passez dans des quartiers pour voir s'ils y sont toujours au bout de quelques années. Et ils sont là.
Ça va dépendre. Bah, par exemple, là, c'est un ami, Codes, qui m'a fait remarquer. Il y en a un, ça a fait 3 ans, il y a 2-3 semaines. Il est toujours là, toujours présent.
Dans quel quartier, où ça ?
À Saint-Michel, qui est à taille humaine.
Tout près de la Sorbonne.
Voilà. Il aurait pu être déchiré durant 3 ans, mais même pas un déchirure.
Donc il n'y a pas de vandalisme contre les vandales artistes ?
Ça dépend des quartiers, je pense, et des murs surtout.
Vous avez été remarqué il n'y a pas longtemps par Tim Burton, le cinéaste américain graphiste.
C'était 2012.
2012. Ah déjà, ah, je pensais que c'était
quand j'ai commencé
que
en 2012, oui. Première.
Ça vous a donné une impulsion
Oui, au début je faisais vraiment ça pour le plaisir et du coup j'ai fait juste 3 collages pour vraiment, à la base c'était plus pour rigoler. Après j'ai fait une série en hommage à Tim Burton qui faisait son exposition à la Cinémathèque de Paris en mars 2012 et j'ai reçu un an après une lettre pour me remercier de ce que j'avais fait à Paris, de cet hommage. Et c'est vrai que ça m'a donné un petit élan, je me suis dit ça peut faire quelque chose aux gens ce que je fais et c'est ça qui m'a donné envie de continuer en fait.
Quel est le profil des street artistes ? Vous nous le disiez, alors vous tenez à votre anonymat, vous êtes arrivé à Paris à 17 ans pour faire une école d'art, hein, donc vous n'êtes pas à proprement parler un autodidacte, mais qui on rencontre dans ce monde-là, dans le fond ? Dites-nous.
Je vous réponds, j'ai juste une toute petite parenthèse, parce que c'est vrai que vous disiez le vandale est respecté et ça me faisait réfléchir. C'est vrai que quand on utilise ce terme, c'est très stigmatisant, on imagine tout de suite destruction.
Non, mais j'utilisais ce mot d'abord avec humour, mais parce qu'il faut quand même bien préciser que quand vous collez, vous toc-toc, vous n'êtes pas dans la légalité. Hein.
Non, pas du tout.
Donc,
je l'entends, mais je sais bien que vous l'utilisez dans une logique positive, mais c'est vrai que c'est un mot chargé et qu'au sens où, à partir du moment où on n'est pas dans la légalité, on est stigmatisé par cette idée de vandale, mais ce qui fait que le mouvement marche et que le mouvement plaît et que l'art dans la ville rend les gens heureux, c'est parce que des artistes arrivent à mettre du beau et en tout cas à mettre d'accord des groupes d'individus qui s'accordent sur le fait que ce qu'on nous propose, bien c'est agréable à vivre.
Et que ce sont des démarches tout à fait pacifistes, hein, on l'a entendu. Mais alors sur le profil.
Je dis par exemple, voilà, imaginons Nicolas, économiste dans une banque, passionné d'art, un jour décide de se mettre à la peinture. J'ai un exemple, on a un copain tétard, Max, qui était à la mairie de Paris, qui était passionné de dessin et qui un jour s'est mis face à un mur et s'est mis à peindre. Je crois que les profils sont
divers. C'est vraiment une aventure personnelle, il n'y a pas de profil.
Oui, je pense. L'art, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est vital, en fait.
Il y a des gens extrêmement différents, mais il y a quand même le point commun, c'est que il y a des gens, ce sont des gens bien en général.
Oui, je suis assez d'accord.
Vraiment.
Là, vous avez l'air sympa, humain. Tous, hein, d'ailleurs.
Non, mais parce qu'il y a une conviction. Hein. On vous a parlé tout à l'heure de l'ADN.
Une sincérité,
ce côté militant, ce regard sur le monde. Donc, c'est difficile.
Mais
il y
alors,
a quand même des gens plutôt
quand
chouettes.
Quand même, pour les profanes comme nous, à quoi on reconnaît le talent sur les murs ? Vous qui en avez fait un métier, tous les deux, en tout cas, Jonas Rabu et Nicolas Logéro.
Alors, en fait, de quoi on parle quand on parle de graffiti ou ce qu'on peut appeler de post-graffiti, c'est-à-dire après la première démarche, je dirais, entre double guillemets, vandale, et quand ces graffeurs ont envie d'en faire une pratique plus artistique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de post-graffiti. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on reconnaît le talent, en fait, comme on pourrait le reconnaître dans l'art. En fait, c'est de l'art, pour conclure, sur ce message-là, si vous voulez. C'est de l'art, tout simplement.
Non, mais
avec des esthétiques
là,
différentes, avec des techniques.
Comment on reconnaît un artiste, un street artiste de grand talent ?
Mais on va prendre quelqu'un de très connu. Basquiat, pour certains, c'est quelque chose qui ne fonctionne absolument pas. Pour d'autres, il y a une harmonie. Et l'art, je veux dire, c'est... Bon, après, c'est... Si on prend un élément kantien pour parler du beau et qu'on veut être un peu philosophe, il dit que c'est un universel sans concept. C'est-à-dire que les gens s'accordent sur le fait que c'est beau, mais ça n'accorde quand même pas tout le monde. Donc ça crée du dissensus, ouais. Ça crée du consensus.
En tout cas, ça fait naître une disons forme que nous, d'émotion on va défendre... partagée.
Oui, puis nous, on va défendre des personnes dans lesquelles on croit, des personnes qui nous touchent. Et puis effectivement, si derrière les artistes qu'on propose plaisent, eh bien, ça fait que nos choix finalement sont bons.
Ça a été le cas pour vous, pour K36, quand ça a démarré, Gare du Nord. Comment ça a commencé d'ailleurs?
Gare du Nord. Alors après, après coup, je vois le chemin qui m'a amené à cette réflexion, mon parcours. Je travaille sur la question kurde et puis mes premières expériences professionnelles en musée, cette envie de me rendre l'art accessible au plus grand nombre. Mais disons que voilà, cette vie m'a amené à un moment à prendre le train pour aller chez mes parents en banlieue dans le 95. Et donc j'étais à Gare du Nord et le train démarre et par effet d'inertie inversée, enfin, il y avait tous ces graffitis, toutes ces fresques qui étaient à la sortie de la gare, et comme si par effet inverse, elle cherchait à y rentrer. Et je me suis dit, mais la gare qui était le QG de la brigade anti-tag à l'époque, était un lieu fabuleux pour y mettre de l'art au quotidien. Enfin, c'est 760.
Il y avait de la place et c'était sinistre.
Sinistre, peut-être pas, mais en tout cas triste. Il y avait des espaces qui méritaient d'être en tout cas sublimés. Et c'est 775 000 voyageurs jour. Gare du Nord, c'est la plus grande gare d'Europe, la première gare de France. En 10 jours, vous avez donc le flux du Louvre. Donc, il y a un potentiel de public assez incroyable.
Ah oui, en 10 jours, on a le flux du musée du Louvre à la gare du Nord.
Le Louvre, c'est 9 millions de visiteurs. Ouais,
d'accord. Donc, voilà. Effectivement, ça donne une petite idée.
C'est 225 millions, gare du Nord. Et donc, c'est réuni entre copains. Et on est allé voir SNCF Gare et Connexion, qui est la branche de la SNCF qui s'occupe de piloter les 3000 gares de France et ses 10 millions de visiteurs.
Il y a de tout hein, dans ce qu'on voit à la Gare du Nord. On peut aussi bien avoir des représentations d'animaux que des corps allongés en trompe-l'œil au-dessus des bancs des quais du métro pour dénoncer la situation des SDF. Enfin, il y a de la revendication aussi. Là. Il y a
de la revendication douce. Disons que je crois que, en tout cas, nous, notre approche est de se dire... Par exemple, j'aime énormément un artiste qui s'appelle Bacon, mais je ne sais pas si... Je laisserai un artiste comme Bourondeau le faire. Peut-être que si j'en avais la liberté dans l'espace public, je le ferais aussi. Dans un espace comme la gare, je trouve que c'était assez important de faire passer des messages positifs, joyeux, mettre de la couleur, des choses un peu simples. Et je crois que le plus beau compliment que j'ai eu à l'époque, c'était quand on travaillait avec Coolcore, donc il y a un artiste qui est né aux États-Unis avec Kissaring et Basquiat dans ses premiers faits d'armes. Ligne 4, ligne 5, c'est une fraise toute haute en couleur. Et donc, c'est un homme qui passe le matin à 7h30 du matin au début de la prod qui me crie « Merci pour la couleur !» Et je crois que voilà,
ouais, ça reste.
Ouais, ça reste et ça touche. Et je crois que c'était vraiment notre premier
7h30
objectif. 7h30
du matin
reste,
dans le métro, merci pour la couleur. Voilà. Eh bien, écoutez, ça serait bien, ça serait à multiplier. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Voici le message d'une voisine postée sur WhatsApp.
Oui, bonjour les voisins. Moi, c'est Nicole, je vis au Burkina Faso. Et le sujet du jour qui est le street art, nous ici au Burkina, on ne connaît pas. Moi, je connais parce que j'ai déjà vu des documentaires là-dessus à la télé. Mais ça, je pense que c'est un truc des pays riches. Parce qu'ici même, il y a des maisons qui sont complètement délabrées, on n'arrive même pas à faire la peinture. Vous trouvez de l'argent pour faire la peinture même de la maison, à plus forte raison, aller payer des peintures pour aller dans les gares et sur les trains et tout ça là pour aller faire de l'art. On n'a pas cet argent-là, donc je ne pense pas que demain, ce truc-là va nous concerner, non. Parce que s'il y avait des jeunes qui avaient cet argent pour pouvoir taguer les murs, les populations même allaient les inviter à venir faire ces genres d'art-là sur leur maison pour mieux embellir un peu plus la ville. Parce que je trouve ça très beau. Quand je vois dans les pays comme les États-Unis, où les jeunes s'adonnent à cet art-là, c'est beau. Mais nous, nos jeunes n'ont pas d'argent pour faire ça. C'est mon point de vue, merci.
Réaction en studio ?
C'est très touchant, mais c'est vrai, on vit dans des mondes complètement différents, mais c'est extrêmement touchant ce qu'elle dit, et quand elle dit, nous on voudrait les inviter à venir peindre sur nos murs.
Pour embellir les maisons,
bah ouais,
qui se les
arment. C'est génial, on en rêve, il faudrait qu'on puisse créer des ponts et des passerelles ensemble.
Des choses à mettre en place, justement.
Ce serait super, ouais, parce que nous, en fait, on rêve
vous avez,
de
vous
ça.
Avez soif
on a envie
de
d'amener
lieux,
l'art partout.
Hein,
oui, vraiment.
Vous
vraiment,
avez tout le temps
oui,
soif de nouvelles
absolument.
Découvertes, de nouveaux lieux pour créer, pour apporter une forme déjà de patrimoine qui existe, de ce street art, mais de le croiser avec des lieux existants.
C'est vrai que c'est un peu l'écran sur lequel on intervient, qui est la ville. Et effectivement, je crois qu'on partage à peu près tous la même démarche.
Les bonnes volontés qui veulent bien vous inviter, vous les professionnels du street
oui,
art.
Oui, et puis sortir de Paris, aller en banlieue, c'est des choses qu'on fait. Amener l'art où on ne l'attend pas et venir égayer le quotidien.
Vous aimeriez bien aller un peu plus loin. Toc Toc, vous aussi ?
Oui, bien sûr. Petit à petit, je suis amené à voyager un peu de plus en plus loin. Et c'est vrai que j'y ai pris goût. J'étais pas fan
vous
de
êtes
ça.
Ouais. Invité en tant que street artiste.
Oui, c'est ça, ouais.
Où par exemple ?
Dernier voyage, j'étais au Koweït, par exemple.
Ouais.
Et c'est vrai que ça me donne envie, en tout cas, de découvrir des nouvelles cultures, nouvelles choses. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir peint là-bas. J'ai un regard différent sur ce que je fais, peut-être. Enfin, forcément, ça, le regard se.
Une nouvelle source d'inspiration.
C'est ça.
Vous savez, des relais qui pourraient nous aider pour ce type de projet, ce sont les instituts français, par exemple. Alors, ils ne sont pas très riches, c'est difficile, les budgets. Mais ne serait-ce que de faciliter un déplacement, quelque chose, d'être un point d'ancrage pour faire des projets, ce serait fabuleux. Donc, voilà un appel pour les nombreux instituts français, et en particulier en Afrique.
Puis, je crois qu'on a tous des copains, donc, effectivement, artistes, qui, dans le cadre de leur voyage, n'hésitent pas.
Si ça s'appelle pas, c'est un appel au continent africain. Pour le street art, alors là, je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 84 22 71 71. Dans quelques instants, nous partons pour la Colombie, un street art très encouragé pour calmer la violence urbaine.
Je fais monter l'adrénaline dans une odeur d'encre indélébile. Retourner les murs de ma ville, une idée qui m'obnubile. L'argent n'est pas mon mobile, mais j'ai quand même les mains sales. Et quand les filles me demandent pourquoi, je suis artiste pictural. Mon truc pectural, le matin en sortant, tu te remémores ton camtar quand il était tout blanc. Mon truc pectural, quand t'as payé 8 francs et que tu choisis le strapontin qu'on vient de taguer maintenant. Une batune sur mes esgourdes, mais je presse vite, je me presse vite. 22, v'là les Schmitt, la dernière étape speed. Puis je m'arrache crêle, remonte sur mon bolide, puis continue mon raid. Je t'emmène en balade au programme Buntlack et Baran. Ta gueule arrache et cavale si les colbocs nous crament. Nos bombes ne sont pas celles que l'Amérique fit pleuvoir sur Bagdad. Juste armée d'autant cadavérique qu'affiche nos villes malades. C'est de la réappropriation du mobilier urbain. Et un tas de primards, ça procure du turbin. De la turpin dans mes douilles, mes cibles sont les meilleures places. La weed cash est dans les couilles, au cas où la bac me les casse. Égoïste sur l'adrénaline, je préfère me shooter en solo. Et dans les rues de ma ville, on me connaît sous mon pseudo. Tes murs sales sont tristes, laisse faire les artistes. On perpétue une technique d'attendre l'ère préhistorique. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Différentes motivations. Le graffiti est un art noble, car à la base y a pas de pognon. Pendant que certains se pignolent et ne savent quoi faire de leur pogne. Les détaillons fignolent afin que dans ta rétine ça cogne. Configuration rapide, opération éclair. Ma vésicule ivre, dégueule un flop sur le rideau de fer.
Nous poursuivons notre discussion, notre découverte de ces dessins de rue en allant en Colombie où justement le street art a été utilisé comme un outil social pour transformer les quartiers dits sensibles ou dangereux, mais aussi pour changer l'image de la ville de Medellín, la deuxième ville du pays. On retrouve notre correspondante en Colombie. Bonjour Najat Benrabah.
Bonjour, bonjour à tous.
Medellín, dites-nous exactement ce que signifie le street art dans cette ville.
Eh bien, Medellín, le street art a deux vertus. Sortir les quartiers de la violence ou de la misère et puis donner une source économique pour vivre. En fait, deux quartiers illustrent cette transformation. Le premier s'appelle la Comuna 13, San Javier, la Commune 13, San Javier. Il y a encore 6 ans, aucun étranger, colombien ou non, au quartier ne pouvait entrer sans se faire tuer à cause des frontières invisibles. Ce quartier était si dangereux qu'il était impossible de traverser sans autorisation. Certains Colombiens ont été tués juste car ils voulaient prendre un bus passant dans le quartier. La tension y était intense. Mais en 2012, l'intervention de l'armée via l'opération de nettoyage Orion a changé la donne. En clair, des escaliers électriques ont été installés ainsi que le métro. Cela peut paraître banal pour vous, mais pour les habitants, cela a permis de les reconnecter avec le centre-ville et ainsi avec le travail. À chaque niveau des escaliers, des fresques d'artistes nationaux et internationaux ont été peintes sur les murs pour cacher les impacts de balles, mais aussi pour redonner un nouveau souffle au quartier. Maintenant, tous les jours, les touristes viennent visiter le quartier avec les guides locaux, c'est-à-dire les habitants du quartier, pour découvrir les fresques murales de plusieurs mètres dans l'ensemble de la commune de San Javier. Ensuite, le deuxième exemple, c'est celui du quartier El Pesebre. C'est un autre quartier sensible des pauvres de Medellín. Là, c'est un peu différent. C'est une équipe d'artistes franco-colombiens qui s'est lancé le pari fou de transformer le quartier et de le pacifier grâce à une fresque. Le collectif Acolor a donc travaillé durant 1 an à la réalisation de la fresque murale d'environ 300 mètres. Les murs ne sont autres que ceux des maisons des habitants. Une gigantesque vague recouvre des centaines de maisons. Elle se distingue d'ailleurs de loin comme une mosaïque, de quoi redonner un nouveau visage au quartier.
Et ces deux quartiers sont des exemples de Medellín, Najet, mais il en existe beaucoup d'autres dans la ville et puis dans d'autres villes de Colombie.
Oui, parce que Medellín est un grand terrain de jeu pour le street art, car la ville l'utilise comme un outil social et touristique. Par exemple, la mairie a fait peindre les fresques murales sur l'ensemble du trajet du tramway de la ville. La municipalité promeut alors ce chemin touristique, chaque fois bien sûr, pour découvrir le quartier Buenos Aires dans le nord de la ville, un quartier justement qui avant n'était pas accessible à pied ni en voiture. Grâce au métro, ils ont ouvert de nouvelles portes. À cela s'ajoutent des fresques sous chaque pont de la ville, qu'ils soient routiers ou fluviaux. Les grands hôtels et les buildings ont également des fresques d'artistes sur les flancs. L'un des plus connus et reconnus, c'est celui de l'hôtel Charlie Lifestyle, où l'on voit le dessin d'un singe d'une hauteur de 60 mètres et d'une largeur de 20 mètres, sur plusieurs étages bien sûr. Il aura fallu en fait 4 jours de travail aux 3 artistes colombiens pour réaliser cette fresque, plus de 20 pots de peinture et 30 millions de pesos, à peu près 9000 euros. Chaque année en fait, ces genres de fresques continuent d'apparaître. Il y en a à travers toute la ville, mais aussi à travers tout le pays. Certaines sont juste rénovées, d'autres rafraîchies, mais pour les habitants, c'est un changement. Par exemple, pour les paisas de Medellín, les habitants de Medellín, ou ceux de Bogota, les Bogotanais, le street art fait partie de leur quotidien. D'autres villes suivent ce chemin de réconciliation sociale et économique grâce au street art, comme par exemple Santa Marta, une grande ville touristique sur la côte caribéenne colombienne, ou alors Cali, la capitale de la salsa en Colombie. Donc en fait, vous l'aurez compris, peindre les murs de la ville est devenu un acte social ici en Colombie et bien sûr, toujours en faveur de la paix dans le pays.
Merci beaucoup pour ce voyage urbain et très stylisé, Najet Benrabah, correspondante de RFI en Colombie. Très très bonne journée à vous, à Medellín.
Merci à vous aussi, bonne journée.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Alors on est passé finalement de ce street art très subversif, très révolté, à quelque chose de très politiquement correct qui arrange les politiques, qui arrange les institutions. Ça ne vous dérange pas, vous, les spécialistes du street art?
Je voulais réagir sur cet extrait de vie, en tout cas. Il y a deux choses sur lesquelles il faut faire attention. Il faut pas croire que l'art urbain résout une problématique sociale. Mettre un coup de peinture dans un escalier, ça ne résout pas une problématique sociale. Derrière, il faut qu'il y ait une vraie politique d'actions qui permettent de mettre en place des changements. Après, effectivement, mettre l'art urbain dans la ville, c'est un formidable levier de traction pour les territoires. On a parlé tout à l'heure des tours opérateurs qui prennent un peu place partout dans le monde, de la France à Philadelphie, en passant par Berlin ou encore Londres. Pour vous donner un exemple très concret, tout à l'heure, on parlait de Blue, cet artiste italien très engagé et qui, effectivement, pousse un cri fort d'un point de vue politique. Il y a des propriétaires qui ont acheté des appartements en face de fresques murales de Blue. Blue est venu ensuite les repeindre en noir parce qu'il a il n'a pas supporté cette idée que son art, qui est un art de revendication, participe de cette gentrification.
Mais donc l'éculation immobilière et la gentrification.
Ça participe à l'augmentation du prix d'un appartement.
Ouais.
Incroyable.
Ouais.
Parce que les gens veulent vivre en face de cet art, en tout cas, qui les touche et qui leur plaît.
Donc il a tout repeint en noir.
Il a tout repeint
terminé.
En noir. Voilà, terminé.
Rideau, il n'y a plus rien à voir.
Voilà, il n'y a plus rien à voir. Alors, après, on pourra dire que cette peinture noire reste de blue et donc peut-être qu'elle aurait de la valeur. Enfin, à chacun de spéculer comme il l'entend. Mais je crois qu'au-delà de ça, effectivement, institutionnalisation peut-être. Il ne faut pas mettre des cornes de diable sur ce mot. Je crois que ce qui est formidable par l'art urbain, c'est que c'est un formidable vecteur de transformation sociale puisqu'on crée du dialogue. Tout à l'heure, on parlait de merci pour la couleur. Le travail de Nicolas est fantastique aussi. Il permet de créer du lien. Et en soi, c'est ça qui nous anime tous. On parlait de cette communauté de gens bienveillants. Je crois que l'idée, c'est que mettre de l'art dans la ville, c'est vouloir lutter contre la censure et participer d'une paix sociale.
Oui, enfin, tous les deux, vous êtes tous les trois, vous êtes bien placés pour le savoir. Nicolas Logéro avec le musée Art 42 et Jonas Ramu aussi. C'est quand même ces œuvres-là maintenant valent de l'argent et vous le savez et vous vivez aussi en partie quand même de ça, non ?
Alors pas nous directement, mais effectivement il y a un marché, hein. Il y a un marché qui est devenu assez considérable. Ce marché en fait il s'est constitué par l'immense popularité du mouvement. C'est-à-dire, à un moment donné, vous voyez, la moindre expo fait 20, 30, 40, 50 000 personnes et même beaucoup plus. Et donc des gens ont eu envie d'avoir un bout de ces artistes. Alors, donc ça a remis au goût du jour les estampes, les sérigraphies. Et aujourd'hui, on peut acheter tous les mois un Shepard Ferré à $80 ou des œuvres
enfin,
de jeunes artistes.
Ça peut monter beaucoup plus haut quand même.
Alors, non, mais pour vous dire que je crois que c'est quand même le mouvement est resté quand même très accessible, en particulier par l'estampe, par la sérigraphie. Oui. Et par des jeunes artistes qui restent accessibles. Après, à l'inverse, des Banksy, pour ne citer que lui, une toile originale aujourd'hui de Banksy coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Il est à peu près, Banksy, 10 fois plus haut que n'importe lequel autre des artistes de cette scène. Hein. Vous voyez, donc il y a vraiment un écart extrêmement
important
pour Banksy. Il ne faut pas
généraliser. Voilà. Est-ce que vous, Toc Toc, vous pouvez vivre de votre art, de votre street art, où vous êtes, parce que vous êtes aussi illustrateur?
Non, j'étais directeur artistique avant, après mes études, et maintenant je vis de ça, enfin je fais ça à plein temps, donc voilà.
Vous vivez de ça.
Une expo d'ailleurs, je crois, en ce moment.
Oui, oui. Je l'ai dit en début d'émission, dans le 11e arrondissement.
C'est ça, en ce moment, une expo solo au Panama Art Café. Ouais.
À Paris. Et quid de la propriété des œuvres sur les murs ? Parce que maintenant, il y a des œuvres de street art qui se font voler. Enfin, celles qui sont décollables, arrachables. Celles qui ne sont pas directement peintes ou bombées sur les murs. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est propriétaire de ce qui a été fait sur les murs ?
Alors, c'est en particulier arrivé là aussi à Banksy, les coûts étant tellement élevé de ces œuvres que effectivement on a vu certains murs qui ont pu être découpés, des portes découpées, etc. Il y a beaucoup de jurisprudence. C'est en train de se réguler la question des droits d'auteur. Mais on a entendu parler d'un scandale il y a quelques mois avec Revoque pour l'affaire H&M. C'est H&M, j'ai pas de bêtises.
Oui, H&M, ouais.
H&M, voilà. Un spot publicitaire filmé avec des grandes fresques derrière. Quid de la propriété intellectuelle ? Ben non.
Five Points aussi, tu sais.
Voilà, exactement. La loi aujourd'hui dit que ces artistes restent propriétaires de leurs droits moraux. Hein, donc, sur la propriété morale, ils en restent possesseurs, même si l'œuvre est posée de façon illégale dans l'espace public à la portée de tous. Ensuite, en revanche, les propriétaires des murs restent maîtres de leurs murs. Donc, quelqu'un qui voudrait recouvrir ou enlever une mosaïque de Dim Baider, il a le droit de le faire. Vous voyez, donc, on marche un peu sur des œufs sur
cette
question.
C'est toute la fragilité de cet art, tout de même assez particulier, cet art de la rue. Eh ben, merci à vous tous, Nicolas Logéro-Lasserre pour le muséum Art 42. Merci à vous, Jonas Ramu, président de Quai 36, société de production d'art urbain. Et puis bien sûr, Gare du Nord, encore pas mal de choses à voir. Toc Toc, merci pour vos collages à consulter sur votre site bytoctoc.com. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi, Marion Goubard. Toutes nos émissions sont aussi en libre service. Nous aussi sur l'appli RFI Pure Radio. Vous cliquez sur magazine et bien sûr vous partagez. Demain, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À demain les voisins.
Le prix théâtre RFI.